الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Après avoir loué et glorifié Allah subhanahu wa ta'ala et demandé que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le sceau des prophètes, le prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui embrasseront cette belle religion que j'appelle l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Je réitère mes louanges envers Allah qui a permis que cette rencontre soit une réalité, à entendre nos frères responsables du Serfi, notre papa Diawara, c'était un rêve. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Maître, le Souverain des circonstances, a fait que cela devienne une réalité. Dans toutes les branches à lui. Et nous demandons aussi également à Allah subhanahu wa ta'ala de déverser toutes ses bénédictions, toute sa reconnaissance envers notre papa Diawara et aux responsables aussi du Serfi qui n'ont pas ménagé les efforts pour vraiment que cet événement deviennent réalité également. Et vous savez, comme on vient de l'annoncer, nous rentrons directement là de Koudougou, où le frère, le docteur Andoul Madji, a donné une conférence. Alors, pour ne pas vraiment trop tirer en longueur, je sais que c'est pénible, mais nous sommes là pour ça. Nous sommes les soldats d'Allah et voilà, nous sommes les soldats. Et donc, cela ne va pas empêcher à notre frère, avec l'éloquence que nous lui connaissons, vraiment d'essayer de dire quelque chose à l'endroit de ses frères et sœurs, donc musulmans, qui sont ici présents, car Allah fasse que sa langue soit dénouée, délié, qu'Allah lui donne de l'éloquence, le verbe qu'il faut, et qu'Allah puisse l'inspirer et à chercher vraiment les mots qu'il faut pour vraiment servir les frères. Alors sur ce, je m'en vais ici donc passer la parole à notre frère Abdul Malik. Voilà Abdul Malik, le frère qu'on a présenté, ex-pasteur. Et pas de moins, c'était un grand pasteur qui avait derrière lui vraiment des milliers de gens. Oui, des milliers de gens. Je crois que vous aurez l'occasion peut-être de découvrir un peu l'histoire de sa conversion à travers un support. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Vous aurez un peu ce témoignage-là, hein, qui est pathétique, qui sera beaucoup édifiant. Pour les futurs musulmans, Inch'Allah. Et ça sera aussi comme un élément d'affermissement pour déjà ceux-là qui sont déjà musulmans, hein, de savoir que l'islam, c'est la vérité, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la religion prêchée par tous les prophètes. Et en tout cas, il l'a vu, il est en train de vivre chez nous.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. heureux de vous retrouver en ces jours d'immense frères et sœurs. Qui est venu pour écouter nos modestes personnes. C'est une grande joie. Il n'y a pas aussi grande joie que de voir les frères se retrouver. Nous ne nous sommes jamais vus physiquement. Mais le jour où nous voyons, c'est comme si nous avons toujours été ensemble des dizaines d'années. Cela prouve que nous sommes fondés sur quelque chose de solide, sur quelque chose de précieux. Qu'est l'islam? L'islam, c'est vraiment tout ce que nous, tout ce dont nous avons besoin. L'islam, c'est le bouddhisme divin pour tout âme qui aspire à ce qu'est l'éternel. Qu'Allah nous affermisse davantage dans son chemin, dans cette quête du bonheur suprême que le paradis, et que Dieu nous préserve de tout ce qui peut être compromettant à notre marche sur cette terre des hommes. Cette terre, nous ne sommes que des pèlerins, des passagers. Des passagers qui n'ont qu'une courte vie, une courte durée de vie. Parce que après cette réunion, après cette rencontre, rien ne prouve que demain nous nous retrouverons encore, sinon que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela vous a déjà été annoncé, je me nomme Abdul Malik, mais n'est pas mon nom d'origine, Maïlin Béli Chivango, ex-pasteur, comme cela vous a été annoncé. Je ne suis pas seulement pasteur d'une église, mais vous devez savoir que j'étais en même temps représentant légal de ma communauté. C'est-à-dire fondateur du centre missionnaire de Tour-Aveden, église chapelle de la réconciliation, connue dans toute la République du Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa et ailleurs. J'ai eu à avoir une courte expérience dans cette vie pastorale parce que tout simplement, je n'ai exercé l'œuvre du prédicateur que pendant 27 ans. 27 ans de gaspillage de temps. 27 ans. Mais Dieu est miséricordieux. C'est vrai que nous les musulmans, nous avons l'habitude, c'est une habitude, c'est notre quotidien. Tous les jours lorsque nous prions, nous commençons par la récitation de Sourate Al-Fatiha, où nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahman Ar-Rahim. Ça devient comme une récitation, comme à l'époque de l'enfance lorsqu'on appelait les corbeaux et le renard. Mais je me demande si les musulmans tiennent compte de cette réellement Ar-Rahman Ar-Rahim. Souvent nous lisons le Coran Al-Karim et nous récitons des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Ghafur Ar-Rahim. Est-ce que nous comprenons vraiment la dimension de la pitié de Dieu, la dimension de la miséricorde de Dieu, la dimension de cette pitié et cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a à l'endroit de l'espèce humaine? Et ces deux caractéristiques fondées sur quelque chose qui paraît fragile, qui paraît simple, qui ne se dispute pas, qui ne fournit pas des efforts pour être ce qu'il est, ce que nous appelons l'amour des dieux. La miséricorde et la pitié sont fondées sur l'amour des dieux. Et ces trois choses, Dieu les a disposées à notre portée, du matin à la nuit, jusqu'au lendemain. Chers frères et sœurs, les autorités de la ville, si jeune que j'étais, mais avec un grand carnet d'adresse, avec de grands contacts, que je vous informe, aujourd'hui, j'ai tout perdu. Parce que tout le monde m'a dit, non seulement que j'ai embrassé l'islam, mais ça aurait été en politique pour m'accuser de la haute trahison. J'ai trahi tout ce que j'ai trahi toute ma communauté. Parce que vous rendez compte, un conseiller juridique d'une communauté qui réunit toutes les églises de l'Orient, c'est quelqu'un qui maîtrise, c'est quelqu'un en qui on a confiance, et quelqu'un qui maîtrise tous les rouages de ce qui se passe. Alors cette personne-là s'en va pour à l'islam et commence à regarder les autres de l'homme. Sachant que je connais ce qu'ils sont et ce qu'ils font, je connais leur vie. Ils peuvent se dire, mais celui-là, si on lui laisse une fenêtre, il risque de tout catapulter. Il risque de tout pulvériser en l'air. Alors le Dieu, ce n'est lâché. Mais celui qui est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans un abri sûr. Voilà qu'aujourd'hui, Dieu nous a fait record. 4 ans plus tard, je me retrouve encore aujourd'hui parmi vous. Après un certain rapport, nous sommes allés, généralement avec le docteur, pour apporter l'islam aux gens. Et nous avons vu des dizaines et des centaines de gens embrasser l'islam. Et je sais aujourd'hui, dans cette même salle, s'il y a des gens qui sont encore sceptiques, s'il y a des gens qui sont encore de l'autre côté, Dieu dans sa grâce, nous parlerons tout simplement, mais c'est la mort sur la mentale qui quitte. Et c'est lui qui affecte, qui touche les cœurs. Et s'il y a certaines personnes qui ont été invitées, nous ne pourrions pas tirer la système de notre côté, mais nous parlerons tout simplement avec un cœur sincère et comptant sur la miséricorde d'Allah. Et nous verrons en chambre, les gens donneront leur vie à la mort sur la mentale. Ils récideront, ils diront ce que nous avions dit. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Comme l'a dit mon frère Abdul Malik, il n'y a pas de plus grande joie que de se retrouver aujourd'hui dans l'islam. Alors nous disions que le frère et sœur cherche à nous voir, alors qu'en réalité, c'est nous qui cherchons à les voir. Pourquoi? Parce que vous nous avez donné la joie de nous sentir aimés par des frères et sœurs, rien qu'en Dieu et pour Dieu. Il n'y a pas de plus grande joie que celle-là. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette salle. Qu'est-ce qui nous a réunis pour que nous nous retrouvions aujourd'hui dans cette salle? Nous n'avons été réunis que par deux paroles. Nous ne nous retrouvons que sous la bannière de deux paroles. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
Takbir!
Et sous la bannière de ces deux paroles, Le meilleur d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus. Dieu ne voit pas les Burkinabés, les Congolais, l'Algérien, les Marocains, non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'Arabe n'est pas supérieur à un autre être humain. Et un autre être humain n'est pas supérieur à un Arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. Un noir n'est pas supérieur à un blanc qui est par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Vous voyez, notre aîné, Cheikh Ahmad Simozorak, je ne l'ai jamais connu physiquement avant cette rencontre. Mais à travers l'internet, je lis ses publications et je lis son histoire. Comment il était arrivé au Burkina Faso? Il n'était pas là avec moi, mais Dieu me voyait. Quand je lis un résumé de son histoire sur internet, avec tout ce qui lui était arrivé, le foulement dont il était victime, j'ai pleuré, alors que je ne l'avais jamais vu. Simplement parce que je savais qu'il était dans le chemin de Dieu et pour le bien-être des musulmans. C'est pourquoi quand je suis arrivé, étant donné que je ne les connaissais pas, je me suis directement assis. Je ne savais pas. Mais quand le frère s'est mis debout et a dit le Cheikh Ahmad Simozorak, j'ai dit, pardon, ça c'est Cheikh Ahmad Simozorak. Je me suis aussitôt levé pour aller vers lui. Et je n'ai pas pu me retenir. Je n'ai pas pu me retenir. Pour Dieu, rien que pour lui et en lui. Je demande à Dieu qu'il puisse assister notre chef jusqu'à la fin et que par sa puissance qui est invaincue, qu'il puisse lui redonner ses droits. Parce que il est puissant sur toutes choses. Il vainc par sa puissance, il n'est pas vaincu. On ne peut même pas dire qu'il n'est pas vaincu, parce que ça c'était sous lui-même pour Dieu. Parce que Dieu n'a pas la puissance, Dieu est la puissance. Dieu est la puissance. C'est comme lorsqu'on parle de l'existence de Dieu. On dit Dieu existe. Mais en réalité, Dieu n'existe pas. Dieu existe par rapport à nous, les jours où nous avons connu qu'il y a un être suprême qui a créé tout ce que nous voyons sur la terre. Mais pour lui, avant que nous ne le connaissions, il était déjà là. Donc Dieu n'existe pas, Dieu est. Il existe par rapport à nous, pas par rapport à lui. Pas par rapport à lui. Dieu est. C'est pourquoi, que vous l'adoriez ou pas, vous ne diminuerez en rien de sa divinité ou de sa souveraineté. En rien. En rien en tout cas. Il a dit cela dans le Coran. Oma yuridu fa'ada dunya, dotihi minha. Oma yuridu fa'ada l'akhira, dotihi minha. Parce que Dieu est Dieu avant comme après la création. Et nul n'est égal à lui. Et il est assomat. Il est assomat. C'est-à-dire, nous avons tous besoin de lui, mais lui n'a besoin de personne. C'est pourquoi dans un hadith Qudsi, Dieu nous dit, si vous les êtres humains et les djinns, vous vous rassembliez quelque part, et chacun de vous fait une demande, je répondrai favorablement à la demande de chacun de vous et ce que je vous donnerai comparativement à ma richesse serait comme une aiguille qu'on a trempée dans l'océan et l'eau qui s'est attachée à l'aiguille là, c'est ce que je vous ai donné et l'océan qui est resté, c'est cela ma richesse.
Allah, Allah.
Est-ce que vous comprenez cela? Ça c'est notre Seigneur Allah. L'ami Yalid, ou l'ami Younad. Il n'a pas enfanté et n'a pas été enfanté non plus. Pourquoi? Parce que chercher à avoir un enfant, c'est avoir des besoins. Or, Dieu est au-dessus des besoins. Nous avons besoin d'avoir des enfants pour perpétuer notre race, ou pour gérer nos affaires après notre mort, ou si un jour nous tomberons malades, ces enfants vont veiller aux côtés de nous à l'hôpital. Ou encore, si on deviendra un jour avec le phénomène, ces enfants nous prendront par la main pour nous amener à la mosquée. Dieu n'a pas besoin d'avoir ça. C'est pourquoi ceux qui disent qu'il a un enfant, ben il leur destine directement à l'enfer. Parce que de par sa nature, il ne mérite pas d'avoir un enfant. Quand il dit dans le Coran, Baba Gumila bin Shaitan Rajim, Takadu Samawat, Yatafattarna minhu, Watanshakul Ardu, Watakhirul Jibalu Hadda, أندعوا لرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي رحمن عبدا. Mais sans faux que les cieux tombent sur nous, que la terre explose. Pourquoi? À cause de cette mécréance qui consiste à dire que Dieu a un enfant. وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Le frère Abdul Malik a dit, est-ce que nous méditons vraiment sur l'attribut de Ar-Rahman? Ar-Rahman qui donne aux méchants comme aux biens ici sur la terre. Vous pouvez ne pas l'adorer. Vous vendez au marché avec un musulman qui prie 5 fois par jour. Mais vous, qui n'adorez pas Dieu, Dieu vous donne les risques. Et il met le musulman qui prie 5 fois par jour à l'épreuve. Il ne lui donne pas les risques comme toi. Mais au dernier jour, il regardait là des musulmans qu'il adorait sur la terre. Et toi, il te jettera en enfer. Parce qu'il n'a pas besoin de toi. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَحْبَطُنَا عَلُوكَ وَلَتَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ar-Rahman. Et il nous dit clairement, tous ceux qui se présentent, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, se présenteront devant lui au jour du jugement dernier comme étant des simples serviteurs. Il n'y aura pas là-bas l'oncle de Dieu, la maman de Dieu, l'enfant de Dieu. Il n'y a pas ça chez Allah. C'est comme aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, c'est le 20e. C'est le 25, non? Alors le 25 aujourd'hui, il y a une fête. Et cette fête a un sens spirituel. Et l'essence, c'est quoi? Parce que la fête de Noël veut dire, pour les autres, c'est le jour où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine, à la personne de Nabi Isa, et il est né d'une femme à la personne de Mariam, alayhi salam. C'est cela l'essence de Noël. C'est pourquoi un musulman qui fête Noël, c'est comme s'il voulait nous dire, ce que Dieu a dit dans la sourate Ikhlas, il n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté, c'est faux. Parce que Dieu est venu sur la terre sous forme humaine, il est né d'une femme à la personne de Mariam. Et quand tu célèbres ça, c'est fini. Comme le prophète l'a dit, Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhu. Celui qui imite un peuple, il est devenu l'un de leurs. Alors Dieu nous dit clairement, Walam yakul lam yalid walam yulad. Il n'a pas enfanté. Il n'a pas enfanté. Ça c'est notre Dieu. Qui n'a pas été enfanté. Parce que si on acceptait aujourd'hui que Dieu a été enfanté, c'est-à-dire qu'il a été précédé par son père ou sa mère par rapport à l'existence. Hein? Si on acceptait que Dieu a été enfanté, c'est-à-dire qu'il a été précédé par son père ou par sa mère par rapport à son existence. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui existait avant lui. Donc lui, il n'est plus Al-Awwal. Il n'est plus Al-Awwal. Il a perdu un de ses attributs. Et le Coran nous dit, Dieu n'est reproductivement sorti de personne et personne n'est littéralement sorti de Dieu parce qu'il est Dieu. Alors mes chers frères, je vais ici encore demander à Dieu de bénir notre Père Diawara, le fondateur de cette école, et tous les enseignants qui s'occupent de l'encadrement des musulmans, hommes comme femmes, qui viennent ici pour apprendre le livre de Dieu. De les bénir, de les assister, et leur donner une longue vie pour qu'ils continuent à être une fierté pour la communauté musulmane et de faire de sorte que eux-mêmes et leur postérité respective soient une fierté pour tous les musulmans, pour qu'ils n'en comme d'ailleurs. Et que Dieu ne nous accorde à nous comme à eux la mort qu'après nous avoir destinés à rentrer dans son paradis, accompagné des champions de l'unicité de Dieu, Mohammed ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Je disais dans mon introduction, Alhamdulillah et à la ni'mati l'islam. Louange à Dieu pour sa grâce qui a fait de nous des musulmans. Et comme mon frère l'a dit, il n'y a pas de plus grande grâce ou de plus grand signe de la grâce divine que celui d'être musulman ou musulmane. Pourquoi? Parce qu'être musulman veut dire appartenir à la religion qui a été prêchée par tous les prophètes. Parce qu'aujourd'hui, les gens, il y a certaines personnes qui disent non, il y a le judaïsme, la religion juive, la religion chrétienne, la religion. Les fondateurs, même ceux à qui on attribue l'initiative d'avoir fondé ces religions, ne connaissent même pas ces noms-là. Ils ne connaissent même pas ces noms. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, parlant de lui et de ses frères, les messagers, il dit, Nahnu ma'ashara al-anbiya abna'ullah dinuna wahid. Le prophète nous dit, ça, parlant de lui et de ses frères, les prophètes qui l'ont précédé, il dit, nous l'ensemble des messagers de Dieu, nous sommes comme le fils, les enfants d'un même père, mais des mères différentes. Notre religion est une. Ça, nous ne devons pas avoir peur ou honte de le dire aux gens. Parce que nous continuons à tomber dans les pièges de l'ennemi en disant non, bon, voilà, il y a la religion juive, la religion chrétienne. Mais non! Parce que Moïse n'a pas enseigné le judaïsme, Jésus n'a pas enseigné le christianisme. Ils ne connaissent même pas ces noms. Nous, ce que nous devons dire aux autres, c'est que, nos frères et sœurs, il n'y a qu'une seule religion qui a été apportée et prêchée par tous les véritables messagers de Dieu, mais que cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans les temps. Avez-vous compris? Ça, c'est le prophète qui l'a dit. C'est-à-dire qu'il n'y a eu qu'une seule religion qui a été apportée, prêchée par tous les messagers de Dieu. Mais cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans les temps. Et c'est facile à comprendre. Comme je l'ai dit aux frères et sœurs de Koudougou, et je vais encore me répéter ici, pour comprendre cela. Quel est le nom du premier président de Faso? Le deuxième, non, Thomas Sankara, c'est avant-hier ici. Laissez, frère. Allahu Akbar. En disant que le frère a été pressé pour répondre. Donc il n'a pas compris la question, parce que la compréhension de la question est la moitié de la réponse. Takbir. Alors, quel est le nom du premier président? Le nom du second? Du troisième? Quatrième, cinquième, sixième, c'est l'actuel président. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Faso a connu plusieurs dispensations présidentielles et continuera à les connaître jusqu'à la fin des temps, mais le Faso restera unique. Il y a eu une seule religion que Dieu a révélée à toute l'humanité, mais cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans les temps. Il n'y a jamais eu plusieurs religions provenant de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est unique. La vérité salvatrice est unique. Le tawhid, le but de la création des êtres humains est unique. Celui d'adorer Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, sur le plan vertical comme horizontal. Le but de l'envoi des messagers de Dieu est unique. La religion qui a été apportée par ces messagers est unique. Allah. 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 la religion de Dieu est une. Alors si l'on peut parler de plusieurs, il y aura une seconde religion. Donc dans le monde, il n'y a que deux religions. Dans le monde, sur la terre, nous n'avons que deux religions. Qu'est-ce que Dieu dit dans le Saint-Coran? Il dit, nous avons créé l'homme. Et puis nous l'avons dirigé sur la sabine. Et puis Dieu dit quoi? Imma shakiran wa imma kafura. Il n'y a pas troisième. Donc il n'y a que deux religions. La religion de Dieu s'appelle l'islam, qui signifie soumission à sa volonté, et qui a été prêchée par tous ses prophètes, parce que tous, à leur époque respective, invitaient leur peuple à se soumettre à la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous verrez même Nabi Issa, Jésus-Christ, la paix de Dieu sur lui. Quand il est venu, il a dit aux Juifs, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, il voulait leur dire, je suis venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit, aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste. Il manifestait réellement la volonté de Dieu sur tous les plans de la vie. Il était musulman soumis à la volonté de Dieu. Donc c'est cela la religion de Dieu. Mais maintenant l'autre c'est quoi? C'est la religion du diable, d'Iblis. Donc le but c'est quoi? Le but est de détourner l'humanité de la voie de qui? De Dieu. C'est-à-dire la religion de Dieu prêchée par les prophètes, inviter l'humanité à se soumettre à la volonté de Dieu,
et celle de Satan qui a plusieurs facettes détourne l'humanité de pouvoir dire.
C'est pas bien, c'est dans ça.
Akbar.
C'est là que vous avez reconnu. Parce que Dieu a créé son monde. Et il a voulu qu'il soit les bonifiés sur la terre, comme il est les bonifiés dans les lieux célestes. Et il a voulu que sa loi puisse réussir notre vie sur la terre, comme la loi céleste réussit la vie des créatures célestes au ciel. Où il n'y a ni démocratie, ni capitalisme, ni je ne sais pas quel système, il n'y a pas un parlement là-bas où Dieu peut parler à tous les gens qui ont des gens de l'air pour demander pour ça. Ça n'existe pas ça. Et donc vous m'avez dit, tous les prophètes ont souhaité cela. Quand il a dit ça, il sera tout ça, il disait,
s'adressant à Dieu, dans la Bible même il dit, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Maintenant, la volonté de Dieu qui est faite au ciel, c'est quoi? Parce qu'au ciel, là-bas, il y a quelqu'un qui peut parler devant Dieu. Qui? Personne. C'est-à-dire qu'il règne à maître incontesté et incontestable par sa loi pour le bien-être des créatures célestes. Et il a voulu qu'il règne sur la terre à maître incontesté et incontestable par sa loi pour le bien-être des créatures terrestres. Et ce sont les musulmans qui ont la charge de faire triompher cette loi. Pas violemment. Non. Pas violemment. Comme font certains. Pas violemment. Parce qu'il faut que nous nous inspirions de la vie du prophète Mohammed. Il a commencé par éduquer les gens. C'est comme ce que vous êtes en train de faire, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est très important. Vous savez, nous vivons une époque très dangereuse.
Non,
pour l'islam. Et l'islam de cette époque n'a pas besoin des gens qui posséderaient une seule science. C'est-à-dire que vous avez seulement la science coranique, ça s'arrête là. Et vous laissez les sciences de la dunya. Parce que Dieu nous dit dans le Coran, préparez toutes sortes d'armements pour faire peur à vos ennemis. Des ennemis que vous connaissez. Et d'autres que vous ne connaissez pas, mais que Dieu connaît, l'armement ici, ce n'est pas seulement l'armement matériel.
Non.
Parce que Dieu aussi ne nous donnera jamais la victoire à travers les armes matérielles. Jamais. Elles sont importantes, les armes matérielles. Elles sont importantes. Mais même si nous les possédons, n'est-ce pas? Dieu ne nous donnera pas aujourd'hui la victoire à travers les armes. Tant qu'on n'aura pas fait un retour vers les vraies valeurs spirituelles et morales de l'islam d'abord. C'est-à-dire qu'il faut que nous retournions d'abord à la Aqida Sahiha, Sunna Sahiha, que nous devenions une expression pratique de vraies valeurs spirituelles et morales de l'islam dans notre vie, pour que par après, même si on avait un fusil de chasse, wallah, on peut tirer. Que Dieu transforme cela en une bombe. Parce que notre relation avec Dieu sur le plan vertical est correcte. Mais à quoi bon servirait un musulman, par exemple, de lire le Coran, mais il trahit le Coran. Vous savez, parmi les formes d'adoration, parmi les meilleures formes d'adoration en islam, les prophètes ont dit dans un hadith, Abdul Ibadat Ummati Kiraatul Quran. La meilleure forme d'adoration dans ma communauté, c'est la lecture du Coran. Mais pourquoi cela? Pourquoi a-t-il dit cela? Parce que même si vous avez. Quelqu'un pourra peut-être se lever pour dire non, c'est la prière. Mais vous ne pouvez. La prière n'est rien sans le Coran. Tout est rien sans le Coran. Tout passe par le Coran. Comme Dieu l'a dit, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَى خَسَارَةٍ. Tout passe par le Coran. Mais imaginez aujourd'hui, nous musulmans, qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui? J'ai été content d'entendre qu'il y a, comme quand les frères parlaient en disant, aujourd'hui certains ont fait de l'air du Coran leur compagnon. Ça a commencé à transformer leur vie. Ça c'est une bonne chose. Parce que à quoi bon? À quoi nous servirons aujourd'hui la lecture du Coran? Si nous nous mettons ici, nous prenons le Coran. بالله من الشيطان الرجيم. Lì, se parla con le tante di lì, si sente, o il fa, il sa che voi ci sta après la lettura ici, j'ai rendez-vous quelque part là, pour aller faire les Sina. Mais tu as dit, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Alors quand il dit ça, Iblis est à côté. Regardez mon ami là. Il est en train de demander protection à Dieu contre moi. Pourtant, juste après la lecture, je serai avec lui dans son coin. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. C'est pourquoi on dit wa minan nasi man yaqra al-Qur'ana wa al-Qur'ana yal'anuhu. Il y a des gens qui lisent le Coran, mais le Coran les maudissent au lieu de les bénir. Parce qu'ils lisent le Coran, que Dieu nous en préserve et fasse de nous, nous mettre dans le nombre de ceux qui liront le Coran et la mettront en pratique. Parce que le prophète Mohammed sallam nous dit, quand on lit le Coran, cette lecture doit être transformatrice pour nous-mêmes. C'est pourquoi il dit, voilà la liste dans laquelle le prophète dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu » Donc la liste, comme le prophète l'a dit, Dieu lui a donné l'éloquence. Il peut dire les mots, mais qui peut revêtir plusieurs sens. Oui, il est meilleur, celui qui a appris le Coran, il l'a appris aux autres. C'est bien. Et est-ce qu'il sera plus meilleur s'il ne met pas en pratique ce qu'il a appris? Par exemple, tu apprends, tu enseignes aux autres, mais tu t'oublies toi-même. Tu apprends le Coran. Dieu dit qu'il faut respecter les engagements. Tu dois à quelqu'un 10 000 francs. Il vient chercher ces 10 000 francs. Tu lui dis, Wallahi, demain, Inch'Allah, tu auras tes 10 000 francs. Tout en sachant que tu ne paieras pas cette dette et tu te caches derrière Inch'Allah pour juste faire de sorte que le fer puisse repartir. Donc celui qui lit le Coran, le meilleur, les savants disent encore, le même hadith fait encore dire Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yani aqdamuhu fi hadha al-hadith yarji'u ila man ta'allama al-Qur'an. Yani il a appris le Coran et le Coran lui a enseigné lui. Le Coran l'a informé tout sur tout ce que Dieu attend de lui. Lui-même d'abord. Comme vous le savez, le prophète a dit, celui qui lit le Coran, une seule lettre, à quoi? Savoir. Ça pèse dans la balance. Et les apôtres ont demandé, vous voulez dire quoi, prophète? C'est, par exemple, Alif Lam Mim, il dit non. C'est Alif, savoir, Lam, savoir, Mim, savoir. Donc on doit lire le Coran. Et c'est seulement l'amour de la lecture du Coran qui nous permettra de transformer notre vie et notre société. Et moi je vous dis que les jeunes qui étudient, s'ils s'attendent à apprendre le Coran, à mémoriser le Coran, wallahi, il y a un grand secret dans la mémorisation du Coran qui fait de sorte que tout enfant musulman qui a mémorisé le Coran, wallahi, il ne peut pas échouer à l'université. Il ne peut pas. Il ne peut pas échouer, c'est pratiquement impossible. Il ne peut pas échouer, c'est pratiquement impossible. Parce que celui qui mémorise le Coran, sa mémoire est purifiée par la lumière du Coran et fait de sorte que tout ce que les professeurs diront, il les assimile facilement, il les comprendra facilement. Parce qu'il a été illuminé par la lumière du Coran. C'est pratiquement impossible. Est-ce que vous comprenez? Donc comme je le disais, nous sommes en train de passer une période très critique pour l'histoire de l'islam. Et cette période, moi personnellement, je l'ai appelée la période de douleur d'enfantement. Douleur d'enfantement. Vous savez quand la femme est sans contraction là, hein? Elle est mal à l'aise, hein? Mais après elle va faire quoi? Vous savez quand l'enfant sort comme ça, la première chose, on coupe le cordon ombilical, elle demande aussitôt à l'infirmière, donnez-les. Elle commence à sourire. Mais avant, c'était quoi de douleur? Donc au moment, la période que nous sommes en train de traverser, c'est une période de douleur d'enfantement. C'est-à-dire la victoire de l'islam n'est plus loin. Je sais qu'on connaît le temps de cette victoire, mais elle n'est plus loin par la grâce de Dieu. Peut-être que nous sommes entrés et passés, les ennemis nous attaquent par-ci, par-là, et ces attaques ne doivent en aucune manière nous inquiéter. Comme je l'ai dit au frère de Koudoubou, parce que dans les attaques des ennemis contre l'islam, comme ce que notre cheikh a subi, comme vous le connaissez, ça c'est rien. Ils peuvent l'arrêter, lui. Ils peuvent le stopper, lui. Mais ils ne peuvent pas stopper ce que lui défendait. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et quand nous voyons les gens attaquer l'islam, bien sûr, ceux qui ne connaissent pas les secrets du Coran, ou les secrets de la promesse que Dieu avait faite aux musulmans dans le Coran, vont s'inquiéter. C'est normal. Mais ceux qui connaissent cela et qui font preuve de patience savent que non, c'est lorsque l'islam est attaqué, c'est à ce moment-là que Dieu fait une contre-attaque dans les attaques même des ennemis pour donner à l'islam la victoire. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu dit dans le Coran, yuridun an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa Allahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Et ils cherchent à éteindre la vérité de Dieu par les souffles des paroles mensongères qui sortent de leur bouche. Mais Dieu confirmera sa vérité, n'en déplaise aux mécréants. C'est-à-dire, c'est lorsque le koufar attaque le Coran, comme nous les musulmans, nous dormons. C'est Dieu lui-même qui va descendre sur le terrain. Et faire une contre-attaque dans leur propre attaque pour donner à l'islam la victoire. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khayrul makirin. Mais malgré cela, l'islam a toujours besoin des ouvriers actifs sur le terrain. La victoire de l'islam, bien qu'elle n'est pas loin, loin, n'est-ce pas? Mais cette victoire ne se réalisera, n'arrivera qu'à travers les musulmans qui sont actifs, n'est-ce pas? Sur le terrain de la dawa et sur d'autres terrains. Parce que comme je le disais, en ces siècles, nous n'avons plus le droit de commettre des erreurs. Les erreurs qui ont poussé certains, n'est-ce pas, à marginaliser. C'est-à-dire, c'est un moment où nous devons vraiment bien former nos enfants, la jeunesse. Bien former la jeunesse dans les deux sciences. C'est-à-dire les sciences coraniques et les sciences modernes. Pour que la communauté musulmane puisse voler. C'était zéro. Vous savez, quand l'oiseau vole avec un zéro, il va faire quoi? Il n'ira nulle part. Mais les sciences modernes, là, ne contredisent pas le Coran. Les sciences exactes. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est la parole de Dieu. Et tout ce que nous voyons sur le plan scientifique, toutes ces réalisations, c'est quoi? C'est l'acte de Dieu. Est-ce que l'acte de Dieu peut être en contradiction avec la parole de Dieu? Non! Mais il ne faudrait pas que les musulmans dorment. Parce que si les sciences modernes, c'est pour l'organisation, n'est-ce pas, mécanique, pratique de notre vie sur la terre, mais lorsqu'on a les sciences islamiques, on saura maintenant donner une orientation spirituelle à toute notre entreprise sur la terre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous disait quoi? Il nous disait, Antum a'lamu bi shu'uni dunyakum. C'est-à-dire, le Coran nous a enseigné les grandes lignes, les grands principes qui sont universels et éternels. L'islam, le monde évolue. Et le génie de l'islam, c'est qu'il évolue avec le monde sans trahir ses principes. Parce que ces principes sont universels et éternels. Donc, mes chers frères, je ne voudrais pas abuser de votre temps. Mais je vous dis simplement, vous nous avez aimés en Dieu et pour Dieu. Et nous vous aimons également en Dieu pour Dieu. Ah oui, ça va. Okay. Et ce qu'on a rappelé est important par rapport à nos soeurs. Vous savez, c'est plus qu'important, ce qu'il ne faudrait pas. Aujourd'hui, l'homme musulman, comme la femme musulmane, sont comme les deux ailes d'oiseaux. Wallahi. Nous n'arriverons jamais à créer une société islamique au vrai sens du terme en ces siècles, si nous ne tenons pas compte du rôle positif
que doit jouer la femme musulmane. Je vous dis, vous savez, je vais vous frustrer avec une chose. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes là tous, nous connaissons que il y a des joueurs parmi nous, des grands connaisseurs. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Lorsqu'une femme musulmane tombe malade ou doit accoucher, n'est-ce pas? On l'amène aussi à l'hôpital. Et là, et ça peut être même la femme d'un cheikh. Suivez-moi attentivement. Ça peut être la femme d'un cheikh, même un grand imam, que ce soit au Burkina ou au Congo ou ailleurs, là où sont les musulmans, et qui négligent le rôle de la femme. Donc, un imam, grand imam, il est là. Quand toi, musulman, même tu vas le visiter à la maison, tu n'as même pas le droit de voir la femme, tu ne vois même pas ses enfants, les filles. Certains, alhamdoulilah, ou bien certains imams et hommes musulmans, alhamdoulilah, demandent à leurs épouses ou leurs filles de se voiler quoi, de se couvrir même le visage. Ce qui n'est pas interdit en islam. N'est-ce pas? Mais vous musulmans, vous allez lui rendre visite, vous ne voyez personne. Mais réfléchissez maintenant un seul instant. Lorsque la femme même de ces grands imams, que les musulmans n'ont jamais vu, qu'à chaque fois qu'ils lui rendaient visite, cette femme donc, allais-je dire, tombe malade, on l'amène voir un médecin. Et ce médecin, c'est un kafir, et il exige que la femme du grand imam se déshabille devant lui. C'est-à-dire, le corps de la femme d'un imam qui est sacré et qui ne peut être contemplé que par son mari, est contemplé par un kafir, mangeur de porc, et qui exige à cette femme de se déshabiller devant. Qu'est-ce que qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Et puis vraiment, on peut prétendre connaître l'islam si on n'a pas pensé, par exemple, à la promotion, n'est-ce pas, à la formation de nos filles, pour que demain, nous puissions avoir des femmes musulmanes, médecins, qui traiteront nos femmes et nos filles et nos soeurs. Oui, on peut parler du cas de Borou, un cas de force majeure, mais le cas de force majeure ne doit pas être éternel. Le cas de force majeure ne doit pas être éternel. Avons-nous pensé à cela?
Non.
Vous savez qu'en Occident même, en Occident, il y a même des femmes occidentales qui ne sont pas des musulmanes, mais qui se sentent mal à l'aise lorsqu'elles savent que non, c'est un médecin homme qui va les consulter. Elles sont mal à l'aise.
Non musulmanes.
Elles préfèrent être consultées par une femme. Parce qu'elles trouvent que non, c'est mal à l'aise de se déshabiller devant un homme. Bon, même si c'est un médecin, mais. Hein, ça leur donne la chair de poule, quoi. Et c'est simple, parce que l'un de nos savants dans l'histoire de l'islam a dit quoi, quand il a visité l'Occident. Il a dit, j'ai visité l'Occident, j'ai trouvé.
Ah oui. Non, ça reste. Mais on accepte de voir une femme, un homme, vivre avec 10 femmes, pour lui, que ces femmes portent des femmes comme lui. C'est-à-dire les homosexuels comme lui. Là, il n'y a pas de problème. Là,
ah, tellement.
C'est pourquoi aujourd'hui nos sociétés même sont détruites, toutes les valeurs morales sont détruites. Donc on a qui le musulman, on parle de polygamie, etc. Mais il y a un savant chrétien, français, chrétien, qui a dit toute société qui adopte la forme de polygamie comme la seule forme du mariage connaîtra trois conséquences. Première conséquence, la prostitution. Deuxième conséquence, les affaires illégitimes. Troisième conséquence, le célibat.
Docteur, t'as
vu? Mais que s'il y a par exemple 6 millions de femmes
et 2 millions d'hommes, et les 2 millions épousés chacun une seule femme, il y aura encore 4 millions de femmes qui resteront célibataires. Où iront-elles? Quelle est la solution que l'Église donne? Il n'y a aucune solution, ce sont les musulmans qui sont les bienfaiteurs de l'humanité et qui doivent s'en charger pour donner de la valeur à ces femmes. Hein? Donc je m'arrête en disant que nous devons penser à former à la formation de nos sœurs. Et le prophète Mohammed lui-même l'a dit, on ne doit pas valoriser les garçons plus que la fille, on doit les placer tous au même pied d'égalité.
Je m'excuse d'avoir été long. Je demande à Dieu d'affermir nos pas dans sa voie, de faire de nous une fierté pour tous les musulmans dans les